européen est déjà attaché à l'européanisation des Balkans. C'est ce qu'écrit le premier des deux auteurs que nous recevons ce soir, Rémi Quenet, page 175, dans Alexandre Ier de Yougoslavie, 1888-1934, biographie publiée dans la collection Biographie de la maison d'édition Perrin. C'est ce que dit donc un diplomate, Rémi Quenet, que j'ai la joie de recevoir ce soir, au sujet du roi de Yougoslavie, Alexandre Ier. Car c'est bien une biographie par un diplomate que nous lisons ce soir. Rémi Quenet a travaillé notamment les archives diplomatiques qui se trouvent aujourd'hui à La Courneuve. Alors ces archives, entre autres, éclairent l'échec d'un État, la première Yougoslavie, que l'on ne confondra pas avec la Yougoslavie titiste. Elles montrent aussi la qualité de notre diplomatie, en particulier dans l'entre-deux-guerres. Publié chez Perrin, la biographie d'Alexandre Ier, Karađorđević, l'unificateur de la Yougoslavie, explique la victoire finale du nationalisme croate, de l'irrédentisme mussolinien, de l'expansionnisme allemand, du libéralisme politique. Vous l'avez compris, chers auditeurs, nous parlons ce soir d'Alexandre Ier, Karađorđević, nous parlons de la Serbie, nous parlons de la Croatie, nous parlons de la Yougoslavie, nous parlons des Balkans et nous parlons aussi de l'Europe danubienne. Bonsoir Rémi Quenet.
Bonsoir Luc Le Garsmeur.
Écoutez, merci d'être de retour sur le plateau de Radio Courtoisie. C'est une biographie intéressante et importante que vous nous livrez. Spontanément, les Français sont assez attachés au Karađorđević, alors peut-être plus encore au père qui était Saint-Cyrien, Pierre Ier de Yougoslavie, qu'à son fils cadet, car ce n'est que son cadet, Alexandre Ier de Yougoslavie, à cette œuvre qui a été accomplie. Et puis évidemment, cette œuvre, on va l'étudier ce soir, elle a fini par échouer. Nous parlons donc de ce personnage, de ce prince d'Europe orientale en première partie de l'émission. Et puis cette émission se poursuivra par une entrevue en duplex téléphonique avec Eddy Miloš, qui est maître de conférence à l'université de Split en Croatie et qui est entre autres l'auteur des Croates et les dilemmes du 1er 20e siècle, d'une certaine idée de la Mitteleuropa aux Balkans compliqués, livre publié dans la collection Croatica aux éditions L'Harmattan. Alors, parlons donc de ces Balkans compliqués, parlons donc de cette Europe orientale. J'ai divisé, cher Rémi Quenet, cette entrevue en quatre parties et je voudrais commencer peut-être par l'évocation d'un officier serbe. Je l'ai dit, il n'était pas Saint-Cyrien, Alexandre Ier de Yougoslavie, contrairement à son père, Pierre Ier. En revanche, il était serbe et même monténégrin, serbe par son père, monténégrin par son père. C'est un homme, un prince qui puise profondément ses racines dans les Balkans. Alors, est-ce que ce sont déjà les Balkans orientaux? Parce que si la Croatie n'est pas dans les Balkans, la Serbie n'est pas encore dans les Balkans orientaux.
Oui, le terme de Balkans orientaux est peut-être un terme que l'on emploie plus récemment pour désigner les États des Balkans qui ne sont pas encore dans l'Union européenne. Je n'ai pas tellement trouvé ce terme de Balkans orientaux dans les archives diplomatiques d'il y a un siècle. Vous avez bien fait de commencer par Pierre Ier de Serbie, Saint-Cyrien donc, parce que Pierre Ier de Serbie a été en fait le premier souverain du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Puisque quand ce royaume a été constitué, Pierre Ier était toujours en vie. Certes, Alexandre était déjà le régent, mais le premier souverain yougoslave, en fait, était Pierre Ier.
Alors, on est en quelle année, Rémi Quenet? En 1919?
Alors, Pierre Ier est mort en 21. Donc, on commence à parler du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes à partir de 1918, même si la déclaration de Corfou date de 17, mais en général, on considère que le royaume est né en 18.
J'ai dit qu'il était serbe, Alexandre Ier de Yougoslavie. Il était aussi monténégrin, voilà, par son père.
Par sa mère, donc.
Par sa mère, pardon.
Donc, Alexandre est à la fois très serbe et très monténégrin. D'ailleurs, lorsqu'on trouvait qu'Alexandre avait un tempérament très vif, voire brusque, il pouvait arriver qu'on le surnomme le Monténégrin. Lorsque l'on demandait pourquoi les Monténégrins étaient si peu représentés au sein du gouvernement du nouveau royaume, Alexandre répondait « et moi » ou bien « et le roi ». Il est donc né à Cetinje, la capitale de la principauté de Monténégro, en 1888, et donc sa mère est la fille aînée du prince de Monténégro, devenu roi de Monténégro, Nicolas de Monténégro. Nicolas de Monténégro, donc il est le petit-fils du roi de Monténégro, Nicolas. Et son père, Pierre Ier, est donc de Serbie centrale, d'une région qu'on appelle la Choumadie, qui
Au
est
sud de
le...
Belgrade?
Je vous demande pardon?
Au sud de Belgrade?
Oui, au sud de Belgrade, et pas très loin d'ailleurs, c'est aussi dans cette région de Choumadie que se trouve la nécropole royale, que l'on appelle le Saint-Denis serbe. Et leur famille est de Choumadie, et c'est le berceau des Karageorges. Ça veut dire que Karageorges, qui a donc mené l'insurrection, la première insurrection serbe en 1804 contre l'Empire ottoman, est un Choumadien. Et voilà. Donc il est serbe et monténégrin.
Ce sont bien deux nations distinctes, Rémi Quenet, la Serbie et le Monténégro. En tout cas, ce sont deux États souverains distincts aujourd'hui, mais ce sont bien deux nations distinctes avec un tempérament et une histoire différente.
C'est une
Parce
question.
qu'il y a une fédération au premier temps de la Serbie indépendante entre Serbie et Monténégro, et donc et Alexandre lui-même voyait ces deux identités comme très distinctes.
Alors, c'est une question très sensible politiquement, aussi bien à l'époque et aujourd'hui. C'est assez compliqué, donc je vais essayer de vous répondre de façon un peu concise. Généralement, ce que disent les Serbes à l'époque ou aujourd'hui, je pense, c'est que la Serbie et le Monténégro étaient deux principautés au XIXe siècle qui étaient séparées artificiellement, c'est le point de vue serbe, par une sorte de couloir que l'on voit qu'on peut regarder sur une carte qu'on appelle le Sandjak de Novi Pazar, et qui en fait a permis à l'Empire ottoman, mais également ensuite à l'Autriche-Hongrie, d'empêcher la Serbie et le Monténégro d'avoir une frontière commune. Donc le point de vue serbe, c'est que volontairement, ces empires, ottomans et autrichiens, ont fait exprès de les empêcher d'avoir une frontière commune, précisément parce que ces empires voyaient bien que c'était une seule nation. Voilà. Ensuite, il peut arriver, quand vous regardez certaines cartes d'il y a un siècle, même un jour j'ai trouvé une carte allemande, sur la carte, au lieu d'écrire, c'est une carte des différentes nations, au lieu d'écrire les Monténégrins, en allemand, ils avaient écrit les Serbes Monténégrins. Les tempéraments sont tout de même un peu différents. Souvent, on considère que les Monténégrins sont aux Serbes ce que les Corses sont aux autres Français, pour diverses raisons, parce qu'il y a une structure un peu clanique également au Monténégro. C'est d'ailleurs un peu le cas aussi en Albanie. Ce qui est sûr, c'est que Alexandre de Yougoslavie, avant donc la fondation de la Yougoslavie, mais quand il a fondé le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, vous pouvez remarquer que dans l'appellation du royaume, il n'y a pas le mot Monténégrin, si bien parce qu'il considérait que les Monténégrins étaient des Serbes. Et surtout, le Monténégro a été absorbé par la Serbie et le roi de Monténégro a été chassé de son trône. Donc en réalité, le Monténégro était absorbé par la Serbie, donc on considérait à ce moment-là, politiquement, que les Monténégrins étaient des Serbes.
Et de fait, le territoire SHS, le territoire du royaume des Croates, des Serbes, pardon, des Croates et des Slovènes, s'étendait jusqu'à l'actuel Monténégro,
Oui.
avec quelques figures politiques. Non, puisque comme vous nous l'avez dit, la principale figure politique monténégrine était le roi lui-même, certes de mère monténégrine.
Mais nous pourrions également parler de l'assassin en 1928 à la Skupština à Belgrade, en plein Parlement.
La Skupština, c'est la chambre basse du Parlement serbe.
Alors, ça dépend des
ou
moments.
Ou la chambre unique.
Oui, c'est ça. Parce que le Parlement était tantôt monocaméral, tantôt bicaméral. Donc, à ce moment-là, la chambre était effectivement unique. En 28, l'assassin, le député qui a tué plusieurs députés croates, était un député monténégrin. Mais je pense qu'il se considérait lui-même comme serbe. Alors, si vous vouliez parler de l'actualité plus récente, quand il y a eu le référendum d'indépendance du Monténégro, bon, j'ai moi-même eu l'honneur d'être observateur pour l'OSCE pour ce référendum d'indépendance du Monténégro. En règle générale, les Monténégrins qui étaient contre l'indépendance se considéraient comme serbes. Et ceux qui étaient pour l'indépendance se considéraient comme non-serbes, évidemment. Mais aujourd'hui, par exemple, quand vous allez au Monténégro, il vaut mieux ne pas dire quelle langue vous parlez, mais dire « je parle votre langue », parce que vous ne pouvez pas savoir quels sont les citoyens du Monténégro qui vont considérer qu'ils parlent serbe et ceux qui vont considérer qu'ils parlent monténégrin. Un jour, j'ai dit à une jeune habitante du Monténégro que je parlais serbe. Non, que je parlais monténégrin, pardon. Et elle s'est mise en colère en me disant « Je ne parle pas monténégrin, je parle serbe. »
Et... C'est dommage parce que vous aviez fourni un effort, Rémi Quenet.
Eh oui.
Bon, alors parfois...
Déjà,
ça
pour apprendre la langue, oui.
Ça ne marche pas toujours. Bon, poursuivons notre portrait, notre tableau de la formation d'Alexandre Ier de Yougoslavie, serbo-monténégrin, on l'a dit, et c'est très visible, et dans ses origines familiales, et aussi dans la construction qu'il a faite de la villa ou du palais de Dedinje, c'est-à-dire qu'il est enraciné dans une culture, notamment artistique et architecturale, qui est une culture, comment la qualifier, de serbe, de byzantine, de balkanique.
Serbo-byzantine. Oui, alors, il est tout à fait évident que c'est l'art religieux, oui, ou religieux, qu'il considère comme plus beau que tout. Cependant, nous pouvons un petit peu nuancer les choses parce que, par exemple, il a été le protecteur d'un, peut-être le plus grand artiste de son règne, qui est Ivan Meštrović.
Qui est un sculpteur.
Alors, qui est à la fois sculpteur et architecte. Et en fait, ce sculpteur et architecte Meštrović, qu'Alexandre protégeait, beaucoup de ses sculptures sont aujourd'hui à la fois en Serbie, en Croatie, mais également une sculpture monumentale à Chicago, une statue équestre d'Indien. C'est pour ça qu'il est connu dans le monde entier. Meštrović, il a été un élève de Rodin, notamment. Et alors, si vous voulez, quelqu'un comme Meštrović, chez Meštrović, il y avait à la fois une influence française et une influence profondément catholique, mais également une influence byzantine. Donc, en réalité, il ne faut pas forcément opposer les choses. Et lui, comme unificateur, là, je parle d'Alexandre, je pense aimer Meštrović aussi parce qu'il voulait que Meštrović... comment dire cela ? Fusionne un petit peu ces différentes influences. En ce qui concerne Dedinje, le palais royal, en revanche, c'est tout à fait serbo-byzantin. Mais il n'a pas promu que l'art byzantin au sein de son royaume. Par exemple, à Split, il y a la fameuse statue...
À Split en Croatie ?
Oui, il y a la fameuse statue de Grégoire de Nîmes, que les Croates considèrent comme une sculpture tout à fait croate. Mais ça peut aussi avoir une signification pour l'ensemble des Yougoslaves. Donc, voilà, il est certain que Alexandre est de toute façon tout à fait byzantin, à la fois sur le plan artistique comme sur le plan politique.
Et pour autant, vous le jugez, Rémi Quenet, sincère dans sa volonté d'unifier les Balkans, d'unifier ce qui s'est appelé Yougoslavie, et ceux de la Serbie du Sud, avec la difficulté que pose la Macédoine du Vardar, évidemment, jusqu'à la Croatie, jusqu'à Lisenzo, jusqu'au fleuve.
Luc Le Garsmer, je ne peux pas vous dire si le roi était sincère, parce que je ne sais pas si je suis parvenu à sonder son âme, mais ce que j'ai pu lire comme témoignage de diplomate de l'époque, c'est qu'il considérait que son œuvre politique était sincère, oui. Oui. Ça, il a été un unificateur sincère, parfois sans doute brusque, mais je pense que nul n'a douté de sa sincérité. Donc la Yougoslavie de la Soča jusqu'au Vardar.
La Soča, donc c'est Lisenzo.
C'est ça. C'est
le lieu de bataille de la Première Guerre mondiale, voilà. Entre la double monarchie et l'Italie.
Exactement, puisque l'Italie était de notre côté, enfin du côté allié. C'est très important que vous en parliez d'ailleurs, puisque au départ, Alexandre considérait les Italiens comme des frères d'armes. Et ensuite, puisqu'ils ont été des frères d'armes de la Première Guerre mondiale, et puis ensuite, l'Italie a été la principale menace.
En raison de son irrédentisme, c'est-à-dire de ses visées sur une province croate qui s'appelle la Dalmatie et qui s'étend jusqu'à Split, jusqu'à Raguse, très au sud, ou Dubrovnik.
Il y a la Dalmatie, mais il y a également le Kvarner.
La Dalmatie, plus au nord.
Voilà, exactement. Il y a le Kvarner. Donc l'Italie a de toute façon obtenu l'Istrie, donc l'Istrie qui aujourd'hui est croate, et la Slovénie en a également un petit morceau, mais à l'époque, l'Istrie est italienne, et les Italiens ont également obtenu Zara. Et puis il y a eu la fameuse affaire de Gabriele D'Annunzio pour Rijeka et le Kvarner. Donc il y a eu un État, une sorte d'État libre, et puis ensuite le Mussolini a annexé également Rijeka, mais les terres irrédentes, effectivement, elles sont plutôt dalmates. Mais il y a le littoral et il y a des îles.
Il y a le littoral et il y a des îles. Poursuivons. Rémi Quenel a le portrait d'Alexandre de Yougoslavie et complétons surtout sa formation, parce qu'Alexandre de Yougoslavie a en partie étudié à Genève. Et donc, il est évidemment francophone, il parle parfaitement français, sans accent. Est-ce que ça a joué dans sa formation, notamment dans son libéralisme? Et c'est l'occasion de vous demander si son libéralisme était sincère ou non, puisqu'il a donné quelques signes contraires, de nombreux signes contraires par la suite. En tout cas, il a vécu et étudié à Genève, dans sa tendre enfance.
Oui, en fait, c'est son père qui était libéral. Pierre Ier de Serbie était libéral, Alexandre ne l'était pas du tout, il n'était absolument pas libéral, en rien. Il est très différent de son père. Certainement, Pierre Ier a choisi Genève parce que c'était une ville libérale, mais vous savez, nous ne sommes jamais seulement le fruit de notre éducation, Dieu merci, nous avons un libre arbitre, mais en l'occurrence, je ne trouve pas grand-chose ni de Suisse, ni de libéral chez Alexandre de Yougoslavie. Il y a peut-être eu un libéralisme de façade dans la constitution de 1931, qui est une constitution octroyée. Voilà. La constitution de 1903, dont je ne parle pas dans ce livre puisqu'elle est antérieure, de Pierre Ier, était libérale, oui, certainement. Mais le règne d'Alexandre Ier de Yougoslavie n'a pas été libéral.
Alors, on va venir à ces différentes constitutions. Il faut dire un mot tout de même de sa famille. C'est un Karađorđe, ça signifie en Serbie ou même en Yougoslavie que ce n'est pas un Obrenović. Et donc, il est issu de l'une des deux maisons proposées pour la dynastie royale, pour la Serbie ou même pour la Yougoslavie. Il est issu évidemment de la maison victorieuse. La principale maison, la principale famille royale serbe qui ait pris part à la libération de la Serbie, la libération du joug ottoman, c'est les Karađorđević dont il est issu.
Oui, il n'y a pas, on ne peut pas dire que l'une des deux dynasties serait plus légitime que l'autre, hein, puisque les, simplement, ces deux dynasties se sont remplacées mutuellement au cours du XIXe siècle, et il y a eu un moment où simplement les Obrenović ont été considérés comme alignés sur Vienne. Et c'est aussi pour cela que le dernier souverain Obrenović, qui a été chassé en 1903 du trône, était considéré comme austrophile. C'est aussi à ce titre qu'il a été chassé du pouvoir. Mais quand je dis que le dernier Obrenović, qui s'appelait aussi Alexandre, a été chassé du pouvoir, c'est pas juste qu'il a été chassé du pouvoir, il a été... Son corps a été démembré et défenestré.
Et sa femme aussi.
Avec sa femme, la reine Draga. C'était une épouse morganatique d'ailleurs.
Ce qui ne justifie pas du tout le sort qui lui a été réservé, Rémi Quenet.
Nous sommes bien d'accord. Mais ce qui est important, c'est que le caractère extrêmement brutal du meurtre du dernier roi Obrenović, en 1903, rendait la réputation des Karageorges un petit peu sulfureuse au sein des autres cours royales européennes.
Est-ce qu'il a gêné lui-même au moment de son mariage ?
Exactement, exactement. Et aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas de cette famille, bien
sûr. Mais est-ce qu'il y a toujours des descendants Rémi Quenet, des descendants des Obrenović ?
La question est un peu controversée. Alors, je ne suis pas un spécialiste des Obrenović, je n'en ai jamais vu. Par ailleurs, je sais que c'est controversé parce qu'il y a des personnes qui considèrent être des descendants des Obrenović, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment considérés comme légitimes ou non. La question est un peu compliquée. Vous trouverez probablement de meilleurs spécialistes que moi de l'autre dynastie.
Très bien, Rémi, ça ne me semble pas de toute façon stratégique.
Ce qui est important, c'est que ce sont deux dynasties autochtones, les Obrenović et les Karađorđević, et que les Serbes avaient déjà eu des dynasties antérieures, médiévales, naturellement, et que ce sont donc deux dynasties autochtones. Et donc... Alexandre a épousé une princesse Hohenzollern-Sigmaringen, je pense que c'est en 1921.
Donc branche cadette, aînée et catholique de la maison de Hohenzollern qui a fait l'unification allemande, mais avec la branche aînée.
Oui, Luc Le Garsmer, vous avez raison de préciser que c'est la branche catholique, c'est une branche catholique de Hohenzollern. Simplement, à partir du moment où ils sont montés sur le trône de Roumanie, ils sont devenus orthodoxes.
Oui.
Donc, la princesse Marie, qu'il a épousée, était orthodoxe et n'a pas eu besoin de changer de religion au moment d'épouser Alexandre. Je le précise, puisqu'il y a eu une difficulté sur ce point avec une princesse française. Donc Alexandre, à un moment, pensait épouser une princesse d'Orléans. Et il y a eu une petite difficulté sur le plan religieux parce qu'elle voulait absolument rester catholique.
Ce qui explique le refus du duc de Guise ?
Ça n'est pas ce que j'ai trouvé dans les archives. À vrai dire, dans les archives, j'ai quand même trouvé des informations suffisamment détaillées sur le sujet. Mais tout de même, avec une certaine pudeur, ce que je veux dire, c'est que si la princesse... dans l'hypothèse où la princesse n'aurait pas trouvé Alexandre à son goût, dans les archives, on écrit l'inverse. C'est-à-dire que la princesse l'a tout à fait trouvé à son goût, mais que le mariage n'a pas pu être possible. En fait, on ne connaît pas la raison exacte. Il y avait la question de la religion des enfants. Donc Alexandre a dit... Alors, pardon, je dois quand même préciser... c'est presque un peu amusant à lire parce qu'aujourd'hui ça paraît un peu... Je ne sais pas si aujourd'hui on procéderait encore de la sorte pour les mariages princiers, mais la République française cherchait à marier Alexandre et cherchait aussi d'ailleurs à marier la mademoiselle de Valentinois, qui est donc la mère du prince Régnier III de Monaco. Donc, c'était bien sûr avant la naissance de Régnier III, puisque les Grimaldi, il y avait un risque d'extinction. Donc Poincaré s'intéressait beaucoup à ces histoires de mariage princier, et a même pensé à un moment d'ailleurs marier les deux, je veux dire Mademoiselle de Valentinois et Alexandre. Et puis finalement, on s'est orienté vers cette princesse d'Orléans, mais elle voulait que les enfants soient catholiques. Alors vous savez, il y a aussi une possibilité, vous avez des catholiques de rite byzantin. Donc, il y a eu cette piste qui a été recherchée, ce qui permet de reconnaître l'autorité du pape, mais tout en conservant sa liturgie byzantine en slavon. Bon. Et donc, Alexandre répondait, oui, ce que je voulais dire, pardon, c'est que le ministre de France à Belgrade parlait à Alexandre de son futur mariage. Et alors, je ne sais pas, c'est un peu surprenant pour nous aujourd'hui, mais je rapporte dans mon livre un dialogue très direct sur le sujet entre Alexandre et le ministre de France à Belgrade, et Alexandre refuse absolument, en tout cas, que ses fils soient catholiques. Les filles, ça n'avait pas beaucoup d'importance pour lui, parce que de toute façon, elles n'allaient pas monter sur le trône. Les filles pouvaient bien rester catholiques, mais les garçons devaient être orthodoxes, et il a même précisé, je ne sais pas un Karageorges qui ne soit orthodoxe. Donc voilà, je ne sais pas si c'est pour cela que ça a échoué, toujours est-il qu'il a épousé une princesse orthodoxe finalement. Alors, il a dit
qu'elle était balkanique et dans sa bouche c'était un beau compliment.
C'était un beau compliment. Je dois aussi préciser que plus tôt, on dit qu'il était amoureux d'une princesse russe, parce que tout à l'heure vous avez eu la gentillesse d'évoquer sa scolarité genevoise, mais Alexandre a également été scolarisé à Saint-Pétersbourg.
À l'école des pages.
Voilà. Et donc, il semblerait, enfin j'ai trouvé ça dans les archives serbes, et cette fois-ci non plus dans les archives diplomatiques françaises, dans les archives serbes, j'ai trouvé que Pašić, le président du conseil, avait écrit au tsar pour demander la main de l'une des princesses impériales pour Alexandre. Et les Romanov n'ont pas voulu. Je ne sais pas pourquoi.
Parce que dynastie trop récente. Ce qui est déjà un reproche que les Capétiens avaient fait aux Romanov. Hein.
Oui, mais il faut bien qu'une dynastie commence un jour. Et vous savez, souvent les dynasties sont plus saines en début de règne qu'en fin de règne.
Sans aucun doute. Bon, toujours est-il qu'il a épousé une Hohenzollern-Sigmaringen. Je voudrais dire un mot de sa personnalité, parce que vous dites vous-même, Rémi Quenet, qu'Alexandre Ier de Yougoslavie était un homme réservé, presque secret. Il a un caractère très officier, je trouve, un homme très discipliné, très rustique au bon sens du terme, vous savez que c'est une qualité dans les armées françaises, très discipliné, très rustique, avec une hygiène de vie, un cadre de vie, des horaires fixes. Évidemment, père de famille. En revanche, le point de vigilance, c'est que ce n'était qu'un cadet. Et c'est quand même assez étonnant, même quand on lance une famille royale, même quand on lance une dynastie. Comment expliquez-vous qu'il ait en quelque sorte, Rémi Quenet, pris la place de son grand frère, qui était son aîné de 2 ans, et qui s'appelait Georges, né en 1887, dont vous dites qu'il était décrit comme fantasque et qui apparemment était également violent.
Fantasque et violent, ce sont des qualités assez balkaniques, oui. Mais son frère Georges est une personnalité très intéressante, très riche et très attachante. Et les raisons sont multiples. Il y a une raison qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est souvent celle qu'on néglige, c'est que Pašić, le fameux Pašić, qui est le président du conseil historique de Serbie et du royaume SHS, des Serbes, Croates et Slovènes, qui est mort en 26, je crois, 1926, Pašić était habitué sous Pierre Ier à gouverner. Et en fait, lui ne voulait pas d'un prince qui lui fasse de l'ombre, et probablement à ce moment-là, il a dû juger Alors, ça n'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que j'ai trouvé dans les archives.
Dans les archives françaises.
Pardon ?
Dans les archives françaises exclusivement ?
Oui, dans les archives françaises, oui. Pas dans les archives serbes. Dans les archives diplomatiques françaises, c'est que Pašić a dû trouver que le prince Georges serait ingérable, entre guillemets, lui ayant le souhait de rester président du Conseil, il n'avait probablement pas envie de se retrouver Pierre Ier vieillissant avec un prince régent tel que Georges. Et il a dû considérer qu'il arriverait plus facilement à gérer, entre guillemets, Alexandre que Georges. Ça, c'est l'une des explications. Après, le caractère impétueux de Georges a pu, là, de façon vraiment rationnelle, faire peur aussi bien à Pierre Ier qu'à l'armée. Et puis, objectivement, Georges
a tué l'un de ses valets.
Oui, donc, vous savez, quand on veut la peau d'un homme politique ou d'un prince, on va toujours chercher, fouiller, on va trouver généralement, quand on veut la peau de quelqu'un...
Mais il n'était pas en situation d'incapacité réelle, selon vous. C'est une personnalité très problématique, mais il n'était pas impolitique et il n'était pas inapte.
Oui, c'est ça, parce que, comment dire, quand on veut discréditer quelqu'un ou évincer quelqu'un, généralement, on fouille, on trouve quelque chose, on dit « Ah, il a une erreur de gestion il y a 10 ans » ou « Une relation extra-conjugale il y a 5 ans » ou je ne sais quoi. Mais là, Georges a vraiment tué un valet. Ça, on ne peut pas le... Il était très intelligent, il était également un très bon étudiant. Il voulait absolument, sur la question de la Bosnie-Herzégovine, qui est en fait ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale, il était très préoccupé par la nécessité d'englober la Bosnie-Herzégovine dans le royaume de Serbie. L'incapacité, elle a été jugée, il a été jugé inapte par son propre père, puisque il a renoncé au trône. Il a renoncé au trône, mais il n'a pas renoncé ensuite à succéder éventuellement à Alexandre pour le nouveau royaume.
Ce qui ne s'est pas fait.
Ce qui ne s'est pas fait. Mais...
Puisque le régent était Paul, un fils d'Arsène, qui lui-même était un frère cadet de Pierre Ier. Mais on y viendra, Rémi Quenet.
Bon, Georges...
Vous vouliez ajouter quelque chose sur Georges ?
Non, je voulais simplement dire, pardon, parce que j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de l'indiquer dans une autre émission de cette radio. Je ne voudrais pas me répéter, mais il est tout de même important de savoir que Georges est le seul prince de la maison Karageorges à avoir été autorisé par Tito à revenir en Yougoslavie.
Est-ce qu'il était porté à son crédit ou à son discrédit ?
De Tito ou de Georges ?
De Georges.
Oh ben, non, de Georges, ça n'a absolument pas... il n'y a rien qui puisse
être discrédité. Donc c'était une figure plus libérale, peut-être même socialiste ?
Ben, c'est-à-dire qu'Alexandre, d'après ce que j'ai lu dans les archives françaises, Alexandre disait... qu'il avait été informé par ce service que Georges cherchait à s'allier même aux communistes pour le chasser, lui, de son trône.
Et il a intrigué contre son frère ?
C'est ce que dit Alexandre, parfois, oui.
Et qu'en disent les archives françaises ?
C'est dans les archives françaises que j'ai trouvé qu'Alexandre disait cela.
Donc c'est corroboré par les archives françaises ? Les diplomates français ?
Alors, je n'ai pas trouvé dans les archives françaises de preuves de complot fomenté par Georges, mais qu'Alexandre ait demandé au service français de surveiller Georges lors de ses séjours parisiens à l'hôtel Continental, qui correspond aujourd'hui à l'hôtel Intercontinental, l'hôtel Continental où descendait Georges, Alexandre demandait au service français de le surveiller. Alors, voilà, effectivement, ce que Georges a très mal vécu, c'est le mariage d'Alexandre. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à être très nerveux, y compris à l'égard de la légation du Royaume de Yougoslavie à Paris, où donc il se rendait et il terrorisait en fait les employés de la légation. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre a pris la décision de le faire interner. De faire interner son propre frère. Et il y a donc un homme politique connu qui est un Serbe de Croatie, qui s'appelle Pribicevic, que connaît bien aussi votre autre invité,
qui cite
dans son livre également. Il cite également dans son livre Pribicevic, qui est un homme politique très intéressant et qui parle beaucoup de la folie du prince George. Et Pribicevic considère que certes George était fantasque, mais que sa place n'était pas dans une maison de fous. Je cite, voilà.
C'est
en fait, Pribicevic pense qu'Alexandre a fait interner son frère pour s'en protéger, voilà. Mais ça, c'est le point de vue de Pribicevic qui considère Alexandre comme un dictateur.
Alors, je reviens, Rémi Quenet, sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers, une émission de Radio Courtoisie. Je reviens à Alexandre Ier. Le succès d'Alexandre Ier, il tient aussi à son comportement durant les guerres balkaniques. Je dis les guerres balkaniques parce qu'il y a évidemment celle de 1912, celle de 1913, et puis la Première Guerre mondiale que parfois les Serbes rangent parmi les guerres balkaniques. Est-ce que Alexandre Ier de Yougoslavie était un grand capitaine? Est-ce que c'était un stratège? On lui prête la victoire de Kumanovo, qui est, je crois, en Macédoine aujourd'hui. C'est un homme qui commandait un corps d'armée dans l'armée serbe. Est-ce que c'était un grand général? Est-ce qu'il a conquis là une légitimité ajoutée à son statut de fils de Pierre Ier?
Alexandre était un soldat. Il était également un diplomate. D'ailleurs, sa carrière, sa première action politique a été une action diplomatique demandée par son père auprès de la Bulgarie, précisément pour s'entendre avant les guerres balkaniques dont vous avez parlé. Donc il a été, chronologiquement, il a tout de même été diplomate avant d'être soldat. Mais il était tout à fait un soldat, comme vous l'avez dit. Après, la question de savoir s'il était un grand général, je ne sais pas. Je pense qu'il a eu la chance d'avoir de grands généraux serbes qui sont connus, comme Putnik, par exemple. Il a eu la chance d'avoir de grands généraux. Est-ce qu'il était lui-même un grand chef militaire? Je ne peux pas le dire, d'autant plus que j'ai plus écrit un ouvrage de diplomate qu'un ouvrage d'histoire militaire. Je suis diplomate de formation, je ne suis pas militaire, même si j'ai fait mon service militaire, mais je pense qu'il était un très bon soldat. Quelquefois, on considère que son frère Georges a été plus héroïque que lui. Il a également eu la chance d'avoir le maréchal Franchet des Prés à la tête de l'armée d'Orient. Et alors, au sein de l'armée d'Orient, il y avait également des Français, des Britanniques, des Serbes, des Grecs, il y avait aussi un peu de Roumains, enfin, il y avait d'autres nations, il n'y avait pas que des Français et des Serbes. Voilà ce que je peux vous dire sur l'action militaire d'Alexandre. Vous avez tout à fait raison de dire que la Première Guerre mondiale est considérée comme troisième guerre balkanique par les Serbes. Et pas seulement par les Serbes d'ailleurs, mais je pense que les Grecs considéreraient la même chose. La Première Guerre balkanique opposait plusieurs nations balkaniques
à l'Empire ottoman,
et la Seconde Guerre balkanique opposait plusieurs États balkaniques aux Bulgares. Voilà, et les Bulgares ont été défaits en 1913, et les Serbes ont été trois fois de suite dans le camp des vainqueurs.
Ce qui explique beaucoup de choses sur la suite, et notamment
sur l'expansion territoriale, oui.
La formation, l'expansion territoriale, et puis la formation de ce royaume SHS. Alors au début de cette œuvre yougoslave, puisqu'il s'agit de la première Yougoslavie, il n'y a pas d'opposition de la Turquie, de la Bulgarie. Et pour autant, il y a cet épisode malheureux qui a lieu le 14 octobre 1912, qui est celui de la gifle, c'est-à-dire que Alexandre Ier, qui à l'époque n'est pas encore roi, ni même régent, qui est prince héritier, gifle une jeune fille qui s'identifie comme on dirait aujourd'hui, comme bulgares et non pas comme serbes. Et c'est le signe de quoi, Rémi Quenet ? C'est le signe d'un nationalisme serbe ?
Bon, alors, c'est assez compliqué parce que s'entremêlent, pour relater cet épisode, s'entremêlent les propagandes bulgares et serbes. Donc, je dois aussi préciser que le mot « propagande » n'était pas un terme dépréciatif à l'époque. Donc, cette affaire de la gifle a surtout été relatée par les Bulgares. Donc, c'est juste qu'il arrive en vainqueur auprès de villageois et il demande à une jeune fille de Macédoine, en serbe, Pašta City, ce qui doit vouloir dire qu'es-tu ? Qu'es-tu ? Et la réponse devait être une serbe. Donc c'était une macédonienne. Et au lieu de ça, elle répond Bugarka. Et ce qui veut dire une bulgare. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas répondre, si vous voulez. Et donc, il ne peut réprimer une gifle. Et il gifle la jeune fille. Donc cela a été utilisé par une propagande bulgare pour donner à Alexandre une réputation brutale. Et la propagande bulgare a indiqué que les autorités serbes avaient essayé de payer la famille de la fillette pour se rétracter, enfin bon voilà.
Donc il y a une faute diplomatique et politique.
J'avance ça un peut peu... être une provocation, hein. La petite, alors ça ce serait un point de vue serbe, ça, on peut imaginer que la famille de la petite fille a été rémunérée pour répondre bulgare, mais
c'est possible,
je ne
mais
veux
Alexandre
pas, je
n'a
suis pas,
pas
là
été voilà. rémunéré pour administrer cette gifle. Mais Rémi Quenet, on entend bien votre réponse. Alors, venons-en au caractère très contrarié de ce libéral. Vous nous avez dit qu'il n'avait sans doute pas été touché par cette éducation libérale, je le vois, contrairement à son père. Est-ce qu'Alexandre Ier n'était pas tout simplement un anti-parlementariste invétéré, comme c'était d'ailleurs très courant chez les chefs d'État dans les années 1920-1930?
Je vous ai dit il y a quelques minutes que je ne prétendais pas avoir pu sonder son âme. Et honnêtement, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, qui ne s'exclut d'ailleurs pas l'une l'autre, hein. Première hypothèse, c'est son tempérament qui n'était pas libéral. Il aurait eu lui-même un tempérament
impulsif,
autoritaire.
Moins que son frère aîné, mais il était lui-même assez impulsif. L'épisode de la gifle le montrerait. Bon, mais après, dans la pratique de la politique, effectivement, la pratique du pouvoir...
Personne ne peut justifier une gifle donnée à une fillette, mais c'était aussi extrêmement brutal comme réponse, en fait.
Oui, après les sacrifices, le Golgotha des Serbes...
Du point de vue serbe, en tout cas, c'est quand même... Bon. Alors, donc il y a deux hypothèses. Première hypothèse, c'est son tempérament. Seconde hypothèse, c'était l'air du temps. Ça veut dire qu'il y avait une crise du parlementarisme à cette époque-là. Plusieurs pays européens ont eu un chef d'État ou de gouvernement autoritaire. Bon, évidemment, c'était le cas de l'Italie. Évidemment, ça a été le cas de l'Allemagne. Vous savez, on parle d'archi-rivalité entre... une historienne américaine qui emploie ce terme, Brigitte Farley. Elle parle d'archi-rivalité entre Mussolini et Alexandre. Mais au fond, c'était dans l'air du temps. La crise du régime de type libéral, parlementaire... C'était dans l'air du temps aussi en France, enfin dans ces années-là.
Il avait sans doute été touché lui-même par cette fièvre-là, ou en tout cas la conscience des limites du parlementarisme. On va voir qu'elles étaient réelles dans le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Que pouvez-vous nous dire, Rémi Quenet, de la déclaration de Corfou de juillet 1917? C'est un moment politique important dans la constitution de ce royaume multinational.
La déclaration de Corfou, c'est la déclaration par laquelle des représentants croates appellent à l'union des terres slaves du Sud avec les dirigeants serbes. Alors, ce qu'il faut bien préciser, je pense que tous nos auditeurs le savent, mais dans Yougoslavie, le mot Youg veut dire Sud. Donc, les Yougoslaves, ce sont les Slaves du Sud. L'Union des Slaves du Sud, qui d'ailleurs aurait pu intégrer également les Bulgares, je crois que ça aurait été le Suède Alexandre, cette déclaration de Corfou est un appel à l'union des peuples slaves du Sud, des Serbes, des Croates et des Slovènes, et des Serbes, aussi bien des Serbes de Serbie que des Serbes d'Autriche-Hongrie.
C'était l'air des Serbes vivant plus au nord, ou sur le territoire de l'actuelle Croatie, ou même sur le territoire de la Bosnie.
Oui, c'est ça.
Les Serbes de la ce que l'on appelait les Serbes de la Krajina pendant la guerre de Bosnie.
Donc, vous avez, au moment de l'Empire ottoman, vous avez des Serbes. Les Serbes étaient repoussés vers le nord, si vous voulez, et puisqu'ils étaient chassés de Serbie du Sud, ou alors chassés, ou ayant peut-être des difficultés à y rester. Donc, des Serbes ont été utilisés par l'Empire d'Autriche comme soldats dans les confins militaires qui sont aujourd'hui en Croatie et qui étaient là pour protéger les limites de l'Empire. Voilà. Ces Serbes de Croatie qui ont quitté la Croatie massivement en 1995 à l'issue de l'opération Tempête et qui étaient là depuis plusieurs siècles. Il y avait donc des Serbes en Croatie, il y avait des Serbes en Bosnie-Herzégovine. Il y a beaucoup de Serbes qui ont été formés à Vienne, à Budapest. Voilà, ils n'étaient pas tous de Serbie. Et donc, il y a différents types de Serbes. Ils ont d'ailleurs une tradition politique distincte. Et la déclaration de Corfou, c'est une déclaration qui unit, si vous voulez, les terres yougoslaves méridionale elle-même, c'est-à-dire la Serbie, le Monténégro, mais également les terres qui étaient encore récemment austro-hongroises. Voilà. Et l'artisan de la déclaration, le principal artisan de la déclaration de Corfou s'appelle Antoine Trumbic, je crois qu'il était maire de Split, et ce Trumbic a été l'un des négociateurs à la conférence de la paix à Paris. Ensuite, avec Pašić, le
président du conseil,
le Serbe. Mais Trumbic, vous voyez, il y avait un enthousiasme à ce moment-là, mais ensuite, assez rapidement, Trumbic, qui était ministre des Affaires étrangères du Nouveau Royaume, il est parti, il n'est pas resté, parce que il n'était pas du tout favorable à ce que le Nouveau Royaume soit une sorte de Grande Serbie, pour simplifier un peu les choses, voilà. Il voulait garder les mêmes prérogatives que celles dont bénéficiait la Croatie au sein de la double monarchie.
Alors, interrompons-nous quelques instants.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam u sred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže, ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš. sreću za nas kupio bih, nemam čime, jedino si moje blago, zagrli me. Trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može, zagrli me, zagrli me.
Sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers, une émission de Radio Courtoisie, et nous poursuivons cette entrevue de Rémy Quenet, qui publie chez Perrin dans la collection Biographie Alexandre Ier de Yougoslavie, 1888-1934. Rémy Quenet, une réaction?
J'ai cru que vous alliez me demander quelle était la chanson que nous venons d'entendre.
Oui, vous avez la réponse?
Oui, le chanteur se nomme Massimo, il est croate, ou croato-italien. Le titre de la chanson, c'est « Zagrlime », qui veut dire « Embrasse-moi ». Et c'est une reprise, en fait, d'une chanson qui a surtout été chantée par un chanteur serbe de Sarajevo, qui se nomme Zdravko Čolić.
Mais on ne peut
c'est une
pas
chanson
vous...
d'amour, voilà.
On ne peut pas vous coincer, Rémy Quenet, j'en suis ravi. Revenons à Alexandre Ier d'Yougoslavie. Nous avons parlé de la déclaration de Corfou. Il y a eu plusieurs constitutions. Il y a eu celle de 1903, c'est ça, celle prise ou octroyée par son père Pierre Ier. Lui, il en a octroyé deux, distinctes l'une de l'autre. Non.
Presque ça. Il n'en a
Dites-moi,
octroyé
Rémy
qu'une.
Quenet.
C'est à peu près ça, mais il y a eu une constituante pour la constitution de la Saint-Guy. Alors, je ne parle pas de celle de 1903, qui était donc la constitution de son père, Pierre Ier de Serbie, de la Serbie.
Mais il y a celle de la Saint-Guy, promulguée le 28 juin 1921.
Voilà, et elle émane d'une constituante, d'une assemblée constituante.
Oui, c'est voilà. L'usage.
Donc, de façon normale, si vous voulez, alors que celle de 31, il a mis 2 ans à l'élaborer de 29 à 31, et là, il l'a octroyée comme Louis XVIIit octroya la charte.
En 1814.
Voilà. Ce qui est intéressant sur la constitution de la Saint-Guy, déjà, la seule dénomination de la Saint-Guy, Vidov Dan, de la Saint-Guy, est très serbe, parce que c'est un jour symbolique pour les Serbes. Vous savez que ça correspond également à la date de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Et donc les Croates ne se reconnaissaient pas là-dedans. Pour eux, la constitution de la Saint-Guy, ça a une signification pour les Serbes, mais pas pour les Croates. Donc déjà, ça commençait mal.
Ça commençait mal, et puis surtout, on parle de 1921, vous indiquez, Rémy Quenet, que ont voté contre ce projet de constitution ou se sont abstenus
les Croates,
les communistes, les socialistes, les députés populaires slovènes de l'abbé Korošec, les musulmans de Macédoine, une partie des Croates incluant Trumbic. Ça ne fait pas grand-chose pour soutenir cette constitution dans un État multinational. Donc quelle était la légitimité de la constitution de la Saint-Guy dont vous avez dit que sa promulgation le jour de la Saint-Guy était en soi particulièrement maladroit?
Il est clair que du point de vue croate, vous avez tout à fait raison de mentionner les autres peuples, parce que j'ai tendance à parler surtout des Serbes et des Croates, mais n'oublions pas qu'il y a également d'autres peuples qui constituent cette Yougoslavie, y compris la première. Numériquement, Pašić a trouvé le nombre de députés au sein de la constituante. Donc, on peut considérer que c'est légitime numériquement. Mais en tout cas, du point de vue croate, cette constitution n'a jamais été acceptée par la classe politique croate. Donc, les Croates ont passé leur temps à pratiquer la politique de la chaise vide. Donc, Pašić, numériquement, a cherché à remplacer...
Il n'y a pas que les Croates, d'ailleurs. Même certains Serbes de Croatie ont appuyé cette politique de la chaise vide, sauf erreur.
C'est exactement ça, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, de la différence de culture politique entre les Serbes de Serbie et les Serbes d'Autriche-Hongrie, qui n'avaient pas toujours, effectivement, qui n'étaient pas... alors notamment le fameux Pribicevic, dont j'ai parlé, qui était le leader des Serbes de Croatie. Si vous voulez, il était, ce Pribicevic était tantôt sur la ligne belgradoise, tantôt sur la ligne croate. Il y avait une sorte d'oscillation.
Mais il était favorable au projet pan-yougoslave ?
Alors, Pribicevic, au départ, était un centraliste serbe, et ensuite, il s'est rallié aux Croates. À partir du moment où il n'a plus été ministre de l'Intérieur.
Oui, il y a des considérations politiques très complexes.
Oui, politiques et politiciennes
et
aussi.
Très intéressantes.
Et de personnes, oui.
Rémy Quenet, la constitution de 1931, elle est plus ou moins libérale ?
C'est assez...
Vous dites qu'en apparence, elle l'est plus,
peu,
mais
oui,
qu'en
c'est,
réalité...
C'est difficile, hein, c'est difficile de répondre à cette question, parce que... est-ce que la question est de savoir si la constitution est plus ou moins libérale, ou si elle laisse davantage... si elle permet davantage de reconnaissance des différentes composantes de la nation yougoslave. Enfin, est-ce que je crois que c'est aussi la question de l'organisation territoriale, le fait d'avoir des... Vous voyez par exemple l'accord croato-serbe qui a été trouvé en 1939 pour créer un
donc postérieurement à la mort d'Alexandre Ier.
Oui, mais par exemple, il émane d'un décret. Cet accord serbo-croate ou croato-serbe de 1939 émane d'un décret, alors qu'en réalité, il s'agit d'une révision constitutionnelle. Donc, en réalité, on aurait dû réviser la constitution et non pas décider par décret de créer une grande banovine croate. Donc,
la difficulté, c'est que les partis étaient territoriaux, étaient nationaux. Et qu'il a fallu beaucoup de temps pour obtenir des partis transnationaux,
oui,
des partis pan-yougoslaves,
c'est
qui
ça,
ne soient pas
question...
une simple émanation territoriale et ethnique. C'est-à-dire que, comme on le dirait aujourd'hui, cette démocratie yougoslave n'était pas mûre. Et ça rejoint d'ailleurs ce que disait Alexandre.
Il le dit
c'est-à-dire
lui-même.
Qu'il y avait une Yougoslavie, mais qu'il n'y avait pas encore de Yougoslaves, c'est-à-dire
oui.
Des partis réunissant et des musulmans de Bosnie ou bosniaque, et des Serbes de Croatie, et des Serbes de vieille Serbie, etc.
C'est une phrase qui est empruntée à la culture politique italienne, où l'on disait au XIXe siècle, il y a une Italie, il n'y a pas encore d'Italien. Bon, donc lui, il a repris cette phrase à son compte. La Yougoslavie existe, mais il n'y a pas encore de Yougoslave. En fait, je crois que davantage que la question de la lettre de la Constitution de 1931, c'est celle de l'organisation territoriale, de la centralisation, savoir s'il y a des régions qui correspondent à la nationalité, ou si au contraire il y a un découpage qui permet de rendre les Serbes toujours majoritaires dans les différents départements. Et puis, il y a la question des partis politiques. Donc, ce qui a été souhaité par le roi, à partir de la période 1929-1931, c'est d'avoir, en réalité, un parti unique, même si ça n'est pas comme ça qu'il est désigné, mais qui soit un parti pan-yougoslave, enfin, non pas pan-yougoslave, mais un parti... comment dire cela ? Chaque parti politique, jusqu'à ce moment-là, était lié à une nation. Le parti radical était serbe, le parti paysan était croate, pour parler des deux principaux partis. En Slovénie, le parti populaire était celui de l'abbé Korošec. Mais lui voulait qu'il y ait un parti qui soit pas lié à l'une des nations, mais qui soit seulement yougoslave, pour créer une nation yougoslave, contribuer à créer une nation yougoslave.
Rémi Quenet, c'est
mais ça n'a pas, ça n'a pas fonctionné.
C'est cet échec-là qu'acte son coup d'État du 6 janvier 1929, l'impossibilité d'obtenir une répartition politique transnationale.
Alors, c'est plutôt le point de départ. Je dirais plutôt que 1929 était le point de départ de sa tentative d'unification et de création ensuite d'un parti qui ne soit pas croate ou serbe. 1929, le coup d'État de 1929 est plutôt la conséquence de la mort, de l'assassinat des députés croates au Parlement, et donc du refus croate de siéger au Parlement à Belgrade, où ils ne se sentaient plus en sécurité.
Qui a tué ces députés croates ?
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand nous parlions du tempérament monténégrin et la question de savoir si les monténégrins étaient ou non des Serbes, un député monténégrin, donc là, il était accusé par certains croates d'avoir en fait été instrumentalisé par le pouvoir belgradois pour les tuer, et alors que le point de vue serbe, c'est que non, qu'il y a eu une dispute très forte entre notamment Etienne Radić, Stjepan Radić, le président du Parti paysan, et des députés radicaux.
Et alors, votre avis à vous ? Votre avis à vous, d'abord, combien de morts ? Combien de députés croates sont morts ? Ils sont morts dans l'hémicycle ?
Alors, je crois qu'il y en a eu trois. Vous avez dû lire mon livre plus récemment que moi.
Ils sont morts dans l'hémicycle ?
Alors, donc plusieurs...
C'est dans l'hémicycle, d'ailleurs ?
Donc,
oui.
Plusieurs sont morts sur le coup. Quant à Radić, le président du Parti paysan, lui, n'est pas mort tout de suite. Il est mort à Zagreb. Il a eu le temps de voyager de Belgrade à Zagreb. Il faudrait revoir... Je crois qu'il y a eu trois morts. Lui, il n'est pas mort tout de suite. Le roi Alexandre a eu une très très bonne réaction. C'est qu'il est allé le voir à l'hôpital.
Mais le mal était fait.
Le mal était fait parce que je crois que le royaume n'a pas pu survivre à cet acte. Oui.
C'est-à-dire qu'il aurait survécu sans cet acte, selon vous ?
Je ne sais pas. Je pense que le royaume aurait pu survivre grâce à 1939, c'est-à-dire à l'accord qu'on appelle Maček-Cvetković, qui est l'accord de répartition territoriale avec une grande banovine croate et une autonomie.
Qu'est-ce que c'est qu'une banovine, Rémi Quenet ? Un territoire, un département, une province ? Qu'est-ce qu'une banovine dirigée par un ban ?
Précisément, si j'emploie le mot banovine et non pas un mot français,
c'est parce qu'il n'y a pas
vraiment l'équivalent.
Alors, un essai d'interprétation.
Disons une province bénéficiant de son parlement et de son gouverneur, ou de son...
Vice-roi. Là, il y a un point intéressant,
vice-roi.
Parce que c'est une distinction majeure entre la culture politique croate héritée de la double monarchie, austro-hongroise, et la culture politique serbe, c'est-à-dire qu'un ban, c'est un vice-roi côté croate.
Surtout pour les croates.
Et c'était qu'un préfet aux yeux des Serbes,
yeux des
beaucoup
Serbes.
Plus centralisateur.
Exactement.
Fustive yougoslave.
Exactement. Les croates voulaient avoir leur chambre, leur sabor, ou leur diète, enfin sabor en croate. Pour eux, la Croatie devait avoir le ban et le sabor. Ça veut dire un vice-roi et une chambre, mais ça veut dire aussi un budget, certes sans avoir sa propre diplomatie. Mais par exemple, dans l'accord de 1939, il y avait une répartition sur les affaires de sécurité intérieure entre Belgrade et Zagreb. Donc c'était satisfaisant, mais c'est arrivé tardivement, et c'est arrivé d'abord 5 ans après la mort d'Alexandre et 2 ans avant la dislocation de la Yougoslavie.
En définitive, c'est un roi, Alexandre Ier de Yougoslavie, Rémi Quenet, qui a été submergé. Alors, il y a plusieurs éléments à avancer. D'abord, on peut s'interroger sur les motifs exacts de l'adhésion croate en 1918. Il faut dire qu'il voyait bien qu'aucune restauration n'était possible. Et d'ailleurs, les projets de restauration de Charles d'Autriche, Hongrie, Charles de Habsbourg-Lorraine n'ont jamais concerné, sauf erreur, que la Hongrie de Horthy. Et puis, il y a aussi la question de la Bosnie. Quel est pour vous le problème majeur? Les Croates ne se sont jamais réellement ralliés à ce projet pan-slave du Sud?
Alors, généralement, on évoque deux raisons. La première raison, c'est la question du littoral, de leur littoral, du littoral croate. Ça veut dire que les Croates savaient que face à l'irrédentisme italien, c'est-à-dire que les Italiens ayant obtenu à Londres la promesse d'obtenir le littoral dalmate, une partie au moins, les Croates savaient que pour les protéger de l'irrédentisme italien, il fallait qu'ils comptent sur l'armée serbe, en fait. Bon. Donc, on considère que les Croates se sont ralliés à ce projet yougoslave. On parlait tout à l'heure de la déclaration de Corfou. Pour cette raison. L'autre raison. Alors, il y a aussi une raison militaire, pardon. C'est que l'armée serbe était remontée, victorieuse, était remontée jusqu'au nord, de toute façon. Mais il y a également une chose qu'on oublie. C'est que le projet politique yougoslave du 19e siècle, il est croate. Donc il y a un évêque, Giacovo, qui s'appelle Monseigneur Strossmayer, que les Habsbourg n'aimaient pas d'ailleurs, et qui n'était... Strossmayer a fondé l'académie à Zagreb, l'académie yougoslave, et qui est aujourd'hui l'académie croate, mais Strossmayer était pour... la Yougoslavie. Alors, il y a d'abord
une unification jusqu'à la Macédoine du Vardar.
Oui, mais il faut déjà
jusqu'au littoral croate. Évidemment,
il faut aussi rappeler qu'il y a eu les provinces illyriennes sous Napoléon. Donc, il y a déjà eu unification de ces terres en partie, au moins en partie la partie
parce que
occidentale.
Les provinces illyriennes s'étendaient à la Slavonie, à la Croatie intérieure.
Non,
c'était vraiment
la
littoral.
Oui, le littoral, mais il y avait aussi il y avait aussi Ljubljana. Ljubljana était la capitale du reste. Elles allaient de Ljubljana jusqu'à Raguse, Dubrovnik. Voilà. Et donc c'est le Marmont qui était
le duc de Raguse.
Qui était, voilà. Donc il y a eu ça, qui est une sorte d'embryon de Yougoslavie, si vous voulez. Puis il y a eu le projet yougoslave, qui est au départ un projet croate. Mais souvent, on fait dire aux Croates... les Croates sont l'inventeur du concept de Yougoslavie. Le grand malheur pour eux, c'est que ce sont les Serbes qui l'ont réalisé.
Et Strossmayer a conçu un projet qui correspondait peu ou prou à celui de Pierre Ier ?
Non.
Il y manquait une nation constitutive,
non, je pense que
une partie
plus...
du territoire.
Écoutez,
lui voulait une grande Croatie maquillée sous le nom de Yougoslavie ?
Oui, alors ça c'est...
Ou c'était un projet sincère ?
Non, je pense que chez Strossmayer, c'était probablement plus culturel, spirituel. Je pense qu'il voulait aussi rapprocher les catholiques des pravoslaves ou des orthodoxes, y compris sur le plan liturgique.
Qui pour incarner ce royaume qui n'a pas vu le jour ? Ça aurait été un royaume ? Il pensait une vraie fédération ? Il avait une dynastie.
Il y avait aussi un projet croate. Je ne sais pas si c'était le projet de Strossmayer. Je pense qu'il y avait aussi un projet croate de troisième entité, donc qui correspond au projet de François Ferdinand, assassiné en 14.
Qui est le trialisme.
Oui, c'est ça. Et alors, c'est assez compliqué comme sujet. C'est un sujet que connaît bien. D'ailleurs,
Edi Miloš,
j'avais eu l'occasion d'en parler avec lui. Ce trialisme, donc qui consistait à vouloir une monarchie habsbourgeoise qui soit plus double mais triple, il y aurait une troisième entité slave. Mais si vous voulez, il y a une sorte de concurrence entre un projet tchèque et un projet croate. Ça veut dire, est-ce que, voilà, j'ai une sorte de, je dirais pas de concurrence entre Prague et Zagreb, mais les Croates voulaient une entité slave qui soit centrée sur Zagreb et qui inclut bien sûr la Bosnie-Herzégovine. Voilà. Et quant au. Et évidemment, c'est un projet concurrent de celui de la Serbie, puisque la Serbie voulait elle-même englober la Bosnie-Herzégovine.
Donc ce projet n'a pas eu lieu, il y a la question de l'adhésion croate, la question de la Bosnie. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu d'une fédération réelle? Parce qu'il y avait une immixtion, une imbrication des peuples au sein de chaque banovine éventuelle. Il y avait des Serbes même en Bosnie, même en Croatie.
Je pense, Luc Le Garsmeur, je pense que l'esprit fédéral lui était totalement étranger en ce qui concerne Alexandre de Yougoslavie. L'esprit fédéral, vous savez, comme par exemple beaucoup de Français, vous avez peut-être constaté même aujourd'hui en parlant avec beaucoup de Français, ils ne comprennent pas ce qu'est le fédéralisme. Ils ne comprennent pas ce qu'est l'organisation fédérale de l'Allemagne ou des États-Unis ou d'autres États fédéraux. C'est un esprit qui peut leur être tout à fait étranger. Lui, c'était la même chose. Donc, il y a cela. Et puis, il y a le fait que les Serbes de Belgrade, Alexandre le Premier, pensaient que les Serbes de Croatie, les Serbes en Croatie, risquaient, ils ne voulaient pas qu'ils soient des citoyens de seconde zone, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire ils ne voulaient pas qu'ils soient opprimés comme ils avaient pu l'être au sein de l'Empire ottoman. Alors quand je dis opprimés, ça peut être...
Marginalisé.
Oui, marginalisé, c'est pas opprimé, c'est plutôt marginalisé, voilà, c'est ça.
Je vais poser la même question à Eddy Miloš, mon cher Rémi Quenet, chaussez-vous du casque. Bonsoir Eddy Miloš.
Bonsoir monsieur, salut à tous vos auditeurs et à monsieur Quenet que je connais un petit peu.
Alors Eddy Miloš, merci beaucoup d'être présent, fût-ce à distance. Vous êtes maître de conférence à l'université de Split en Croatie et vous êtes entre autres l'auteur des Croates et les dilemmes du 1er 20e siècle, d'une certaine idée de la Mittel Europa au Balkan compliqué, publié chez l'Armatan dans la collection Croatica. Eddy Miloš, j'ai envie de vous poser la même question. Pourquoi, selon vous, Alexandre Ier de Yougoslavie n'a-t-il pas fait de la Yougoslavie, et avant cela du royaume des Croates, des Serbes, pardon, des Croates et des Slovènes, une fédération complète?
Oh, il me semble que le concept même de fédération lui est totalement étranger, tout comme lui était incompréhensible l'esprit de l'Europe centrale, et tout comme lui était étrangère toute idée de subtilité institutionnelle. c'est un homme d'État balkanique qui souhaitait un État centralisé, une espèce de royauté jacobine, une et indivisible, où tout est simple, tout est clair.
Est-ce que pour autant, Eddy Miloš, le projet était selon vous celui d'une grande Serbie déguisée, insincère?
Ah, là, vous me posez une question très compliquée, parce que des panserbes, il y en avait. Ce sont les radicaux de Pašić qu'il faut différencier des yougoslavistes unitaristes, démocrates, entre guillemets, évidemment. Alexandre, selon moi, évoluait entre une conception yougoslaviste serbisante et panserbe yougoslavisante. C'était une espèce de compromis entre les deux. Et on ne saura jamais vraiment, puisqu'il n'a pas mené son projet jusqu'au bout.
Il ne l'a pas mené en raison de l'assassinat de 1934, auquel ont eu part, entre autres, des Croates, non exclusivement. Est-ce que ça signifie que les Croates continuellement se sont opposés à son projet? Comment est-ce que vous expliquez l'adhésion, certes partielle, des Croates en 1918, à ce projet de constitution d'un royaume SHS, des Serbes, Croates et Slovènes, qui ultérieurement deviendrait un royaume de Yougoslavie?
Très simplement, il n'y a jamais eu d'adhésion. Le peuple croate n'a pas été consulté. Il faudrait que je revienne sur toute l'histoire de la Première Guerre mondiale. Je peux le faire si vous le souhaitez. C'est une affaire très compliquée. La Croatie a dû se résigner à cette solution.
Face à l'Italie et en raison de la chute de l'Empire austro-hongrois ?
Absolument. La Serbie est devenue un rempart face à la voracité italienne. La défaite de l'Autriche-Hongrie, le naufrage de l'Autriche-Hongrie, il fallait bien se raccrocher à quelque chose. Mais c'est l'aboutissement d'un processus très compliqué et qui commence bien avant 1914.
Et quel en est le point de départ, selon
vous ? Une adhésion des Croates à ce... le point de départ, c'est une espèce de croissance de l'idée yougoslave juste avant la guerre. Jusqu'en 14, se sont succédés, ont coexisté des courants yougoslavistes, austroslavistes, trialistes, progressistes, nationalistes, très rarement panserbistes. Ces mouvements conservaient en général la monarchie des Habsbourg comme cadre d'action exclusif. Et ce n'est que dans la dernière phase de la période que se sont affirmées les tendances préconisant une séparation avec l'Autriche-Hongrie et l'union à la Serbie. Et elle-même se partageait entre nuances unitaristes et fédéralistes. Et il est vrai qu'entre l'avènement de la dynastie des Karadjordjevic à Belgrade et les guerres balkaniques, les yougoslavismes ont connu une réelle montée en puissance dans le domaine des Croates. Maintenant, à la veille de la guerre, par un concours de circonstances complexes, favorisé par les discordes opposant Budapest et Vienne au sein de la double monarchie, les représentants du yougoslavisme sont parvenus à se hisser vers les sommets du pouvoir et à noyauter de nombreuses institutions dans les pays croates. Et après le déclenchement de la conflagration mondiale, le camp yougoslaviste, certes hétérogène et en plein processus d'évolution convergente, s'est orienté vers un projet commun d'État sud-slave rattaché à la Serbie. Mais ce projet s'est aussi heurté à des résistances tout au long de cette période. J'en dis un mot ?
Oui.
Résistance incarnée par les franquistes du Parti du Droit et le Parti Paysan de Stjepan Radić, auquel il convient d'ajouter des chefs militaires austro-hongrois comme Svetozar Borjević, Stjepan Sarkotić, certains hommes d'église comme l'évêque de Sarajevo, de Vrbosnacht, de Josip Stadler, des intellectuels comme Ivo Pilar et Fran Milovar. Ce sont les représentants du front pro-autrichien et tous partageaient la même conviction que la monarchie des Habsbourg devait être sauvegardée tout en appelant de leur vœu sa réorganisation complète, et ils n'ont eu de cesse de laisser de dessiner les plans d'une grande Croatie unifiée et fermement ancrée à un État danubien viable à long terme.
Oui, mais Edi Milo, je vous coupe ici, parce que la pensée de Stjepan Radić, en tout cas, ses déclarations sont parfois contradictoires. Il a toujours servi ce projet-là ?
C'est son grand problème. Non, pas du tout. Ça a été un des pionniers du yougoslavisme progressiste. Stjepan Radić était effectivement quelqu'un qui changeait souvent d'avis.
Oui.
Il a commencé aux côtés de Svetozar Pribicevic.
Donc serbe de Croatie.
Délateur du...
Il faut préciser parce que... Il faut préciser, pardon de vous couper, Edi Miloš, parce que sinon ça devient très compliqué. Pribicevic, c'est bien serbe de Croatie ?
C'est ça.
Oui. Poursuivez,
c'est
je vous en prie.
C'est un serbe de Croatie.
Oui.
C'est un serbe de Croatie. Donc, Pribicevic et Radić ont été à la fin des années 1890 les chefs de file du yougoslavisme progressiste. Par la suite, Pribicevic a fondé le parti autonome serbe, tandis que Stjepan Radić est devenu le président du parti paysan croate. Parti paysan croate qui considérait que les paysans étant majoritaires dans la nation croate, la paysannerie était le conservatoire de l'identité de la nation croate. Et que c'est sur la paysannerie qu'il fallait construire le mouvement national des Croates. Ça, c'est Stepan Radić. Le pire ennemi de Stepan Radić était Josip Frank, du Parti du Droit. Stepan Radić, en 14, se réconcilie avec Josip Frank, et tous deux seront les principaux défenseurs de la monarchie des Habsbourg. Alors, je confirme, c'est très compliqué.
C'est très très compliqué parce qu'en fait, on sent bien l'espoir de la nation croate et puis les fortes contraintes qui sont les siennes. Il y a ce danger italien constant et ce danger mussolinien constant, celui de devoir renoncer à toute intégrité de son territoire et en particulier au littoral, à la Dalmatie. Il y a évidemment la poussée allemande et Rémi Quenet montre dans sa biographie d'Alexandre Ier qu'à la toute fin du règne, la diplomatie allemande grignote continuellement l'action de la France. Puis il y a aussi toute cette diversité interne, la question de la Bosnie-Herzégovine, la population musulmane qui elle est très attachée au foncier. C'est d'une complexité considérable et donc en fait on se retrouve.
Oui, mais vous savez.
Oui.
On s'arrête toujours à l'année 1918, lorsque tout était perdu. Lorsque l'Autriche-Hongrie était naufragée, lorsque l'Italie menaçait de prendre une partie du territoire croate, lorsqu'au fond tous les Croates, même ceux que j'ai évoqués précédemment, se sont résignés à la création d'un État sud-slave. Il faudrait voir qu'en était-il en 1914. Et il faudrait chercher les indices. Et le peuple dans tout ça? Que pensait le peuple dans tout ça? Les élites politiques n'étaient pas du tout représentatives du peuple. Par exemple, d'après mes calculs, le parti majoritaire au Sabor en 1918...
Le Sabor, c'est le Parlement croate.
Le Parlement croate a été élu en 1913 avec le concours des Hongrois par 1,4% de la population. Ce n'est pas un système démocratique ni représentatif. Maintenant, ce que j'ai constaté pendant mes recherches, c'est qu'il existe quand même beaucoup d'indices qui tendent à faire penser que les Croates étaient toujours attachés à la monarchie des Habsbourg. D'abord, après le crime de Sarajevo, ils ont été innombrables a exprimé publiquement leur soutien aux Habsbourg et leur indignation envers le forfait de Gavrilo Princip. Par la suite, indice très intéressant, une fois la guerre déclarée, les soldats croates répondent à l'appel aux armes et font leur devoir avec une loyauté et un dévouement exemplaires. Ils défendront la monarchie massivement, bec et ongle, sur tous les champs de bataille, des Balkans à la Galicie et au Proche-Orient. Et leur courage et leur ardeur au combat s'exprimeront d'ailleurs tout particulièrement contre les Serbes et les Monténégrins, avant d'atteindre leur paroxysme pendant les boucheries de Lissonzo contre les Italiens. Et jusqu'en 1918, les signes d'un relâchement et les défections seront insignifiants.
Mais ça, c'est de l'attachement dynastique, c'est de la, comment dire, de un sentiment de coreligionnaire catholique, c'est une reconnaissance pour l'œuvre de développement accomplie éventuellement par les Habsbourg. Quel est le déterminant ici?
Vous avez dit le mot, c'est un attachement dynastique. Ce n'est certainement pas un attachement à la version austro-hongroise de la monarchie des Habsbourg, et encore moins un hommage à l'œuvre de la monarchie dans les pays croates. C'est un attachement à la dynastie, aux Habsbourg, à l'empereur d'Autriche et donc au roi de Croatie.
Edi Miloš, je suis très peiné de vous couper ici, mais c'est sur un point moral, si j'ose dire, et puis sur une évocation à la fois nostalgique et très belle de ces liens. Je suis tenu de le faire pour des raisons radiophoniques, mais je voudrais vous remercier d'avoir été présent en plateau, d'avoir été présent à distance,
merci
ainsi
à
que Rémi Quenet en plateau. Et j'espère, Edi Miloš, que vous voudrez bien être présent la prochaine fois et prochainement sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers, une émission de Radio Courtoisie, pour continuer d'évoquer les Croates, les dilemmes du premier XXe siècle, et puis leur rapport à la Mittel-Europa et à l'Europe orientale. Merci beaucoup, Eddy Miloch. À bientôt sur le plateau de Radio Courtoisie.
Merci à vous.
Merci à vous, Rémi Quenet. On vous lit chez Perrin, Alexandre Ier de Yougoslavie. À bientôt, chers auditeurs. Darobour, Servalilium.
Vous venez d'entendre le libre journal des chevaux légers dirigé par Luc Le Garsmeur. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 23 avril 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.